Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we, with our Insights Hub to help you navigate the year ahead. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness.
Vous écoutez
RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Comprenez ce que je veux dire ?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit. Nous sommes en direct, comme tous les soirs, bien sûr, dès 21h, les soirs sans match. Vous avez maintenant l'habitude dans l'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football ne pense pas encore. Ce soir, Laure Le Payeur est là. Salut Laure.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Kevin Diaz est parmi nous. Salut Kevin.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Daniel Riolo est là également.
Salut les amis.
Jérôme Bretagne nous rejoint tout à l'heure. Julien Cazard également aux alentours de 23h20. Et puis l'événement ce soir dans l'after, c'est quoi ? C'est le retour de la Ligue 1. La Ligue 1 revient ce week-end, et oui, du coup on va en parler.
C'était toi l'événement.
Moi aussi,
le
ah ouais, moi aussi je croyais que c'était ça.
Il est sérieux lui.
Non, mais, il était en train d'aller.
Pourquoi vous parlez de celui-là là?
Il tremblait, il attendait, il était plein d'émotions.
Il avait un chargé. Et là, tu sors Ligue 1 sans
déconner. Les larmes et tout, je dis c'est trop beau ce qu'il dit.
Il y avait un effet
changé cette émission plutôt.
Il y avait un effet d'annonce, on n'avait pas encore montré sa tronche à la télé, tout ça.
Non.
Toi, t'as vraiment, tu comprends rien.
Non, mais surtout, il n'en a rien.
Ça changera jamais, par contre.
Mais t'es incroyable, toi.
Oui, c'est vrai que tu voulais me défendre.
C'est fou.
Nicolas
Villas, bien sûr, que vous avez reconnu, est là.
Oh, la viva, ça faisait longtemps.
Exactement. Alors, je reprends. Donc, l'événement, c'est la Ligue 1. Débat sur la suite de la saison de Lyon. Est-ce que l'OL va faire une saison pourrie?
Fâche-le.
Les prolongations de contrat au PSG. Comment gérer Cavani, Thiago Silva, Neymar, Mbappé? On va parler de tout ça. On va parler avec Nico, dans quelques secondes, de l'arrivée de Mourinho à Tottenham, bien sûr, plus Rennes et ses ultras, qui sont les héros d'un documentaire. Et on va parler également de Maradona. On en parle depuis quelques jours, de Maradona et de ce documentaire sur Netflix. Vous allez voir que tous les Mexicains ne sont pas convaincus par ce doc.
Pourtant, il est pas mal. Hein.
Voilà.
On t'a dit que tu parlais pas pour l'instant. Oui, mais je le dis quand même, il est pas mal.
Moi, je ne serai pas là, de toute façon. Moi, je l'invite à parler quand il veut.
Merci beaucoup, Daniel.
32-16, on vous attend pour tous les
c'est
sujets.
C'est sympa d'être là que là-bas, en fait. Hein.
Hashtag RMC Live sur Twitter. Direct Studio sur les applis RMC, RMC Sport, bien sûr, pour nous envoyer vos messages, puis télécharger tous les podcasts de l'after. Hein. Lyon, Paris, tout ça, Marseille, Saint-Etienne, le vrai podcast dans son intégralité, les chroniques, vous avez tout. 80 millions de podcasts depuis le début de la saison. Téléchargez de l'after, on est au top. Messieurs, dames, attention, il est là. Jingle. Nicolas Villas.
Alors Mathieu, on va pas se mentir. Hein. Béziers en Ligue 2. Alors c'est étonnant pour nous.
C'est quoi ça?
Béziers.
Ah, Béziers.
Oui, certains lapsus.
Très bien.
Voilà.
Alors si tu es là, c'est parce qu'évidemment, tu connais la famille Mourinho, les enfants, les voisins.
Oui, Mathieu et José Mario Junior.
Voilà.
Il y a une fille qui s'appelle Mathilde.
En fait, la fille a le nom de sa mère et le fils a le nom de son père.
Une fille s'appelle Mathilde.
Ouais. Toi aussi?
Oui.
Voilà.
C'est-à-dire qu'attends, José, il s'est dit, j'ai un fils, je vais l'appeler José, quoi.
Non, il s'appelle José Mario.
Il aurait fait comme Erika, il aurait fait José 2.
Non, mais il s'appelle José Mario Junior, son fils. Lui, il s'appelle, c'est Zé Mario, José Mario, c'est son vrai prénom.
Très bien.
C'est ça normal, mon fils, je l'ai appelé Daniel Junior.
Voilà.
C'est logique.
Il a bien l'eau.
Mais alors, Neymar, il a appelé son fils comment? Neymar Junior Junior?
Junior au carré. Okay. Ouais, c'est super chiant à écrire, mais.
Et Jean de Macoun, il fait comment?
Jean-Trois Macoun. Et Samuel est au fils. Samuel est au petit-fils.
Petit-fils. Putain, mais loin.
Samuel est au fils.
Alors, Julien Laurent, c'est parmi nous. Salut Julien.
Salut Gilbert, salut à tous.
Alors, évidemment, tu es également concerné par l'arrivée de Mourinho. Hier soir, on l'avait dit, on avait tout vu dans l'after, Julien.
On avait été bon, j'ai trouvé, effectivement. Ouais. On avait raconté pourquoi Pochettino s'était fait virer et que Mourinho était le grand favori pour le remplacer. On en a remis une couche dans Foot ici, un petit peu plus tard avec Nico, d'ailleurs.
Il attendait juste un cadavre pour se jeter dessus. Donc,
tu as raison. Donc, c'était effectivement pas le secret du siècle, mais bon.
C'est un peu le logo.
Il fallait juste un club avec assez d'oseille pour le recruter. Il allait partout, quoi.
C'était un peu ça, mais sincèrement.
Première ligue parce que c'est plus relou.
Oui, enfin un club avec un peu d'oseille. Je veux dire, c'est pas.
Qui est du blé.
Et puis peu
tu comprends mieux
blé,
pourquoi
ils sont pas, je sais pas, en Ligue des Champions.
Il fallait que ce soit en première ligue. Il fallait que ce soit.
Voilà, il fallait que ça joue.
Il fallait top 10 européen.
Non. Il a dit et répété, et ça, il le pensait vraiment. Il fallait que ce soit un club qui ait des objectifs de haut de tableau, c'est-à-dire titre à court terme. Pas un club pour jouer 10e place ou Europa League. Lui, il vise le titre avec Tottenham, certainement pas cette année, mais l'année prochaine ou celle d'après, quoi. S'il est pas viré, aussi parce que un chèque de 15 millions.
Mais aussi parce que Tottenham lui a donné effectivement 17 millions d'euros à l'année. Et Jean-Michel Aulas qui a voulu nous la faire à l'envers il y a quelques semaines en nous disant oui, Mourinho, peut-être que ça aurait pu le faire. Pas à 17 millions d'euros la saison.
Alors attendez, justement à ce sujet, vous savez que Mourinho a très très mal pris cette sortie de Jean-Michel Aulas à l'époque.
Ah bon ?
En fait, si vous voulez, Jean-Michel Aulas a vraiment échangé avec Mourinho et Mourinho lui a dit ce qu'il avait dit d'ailleurs dans certaines interviews, c'est merci en gros pour cet appel, je suis très flatté, mais je suis intéressé par un autre type de projet. Il a jamais dit j'ai déjà un autre club en vue, ce qui est pas pareil. Et il a pas aimé que Jean-Michel Aulas dise en gros Mourinho ne vient pas chez nous parce qu'il a déjà signé ailleurs, ce qui était pas du tout le cas, sinon on l'aurait su, tu vois.
Ouais, on savait que c'était mytho. Mourinho pouvait pas aller à Lyon. C'est pas sa dimension, quoi.
Non, voilà, c'était un peu déformé. Exactement. Chacun a défendu son.
Alors, faut qu'on donne toutes les infos, puis après on débattra ensemble. Donc bon, il est arrivé. Voilà. Est-ce que Julien, en Angleterre, on pense que c'était ficelé avant de virer Pochettino?
Alors moi, on me dit que c'est donc Pinizahavi qui et pas du tout Jorge Mendes. Hein. Jorge Mendes n'est pas impliqué dans ce deal. C'est Pinizahavi qui a fait le deal. C'est il y a 3 semaines environ qu'il a commencé à en parler à Daniel Levy. Daniel Levy s'est montré ouvert il y a 3 semaines. Ils ont plus ou moins façonné un petit peu le deal jusqu'à donc hier soir. Je pense qu'il a fallu pas mal de temps pour que Tottenham et Mauricio Pochettino se mettent d'accord sur le montant du chèque. Pour le limogeage, une fois que ça c'était d'accord, Pinizahavi et Daniel Levy qui se connaissent très très bien, qui sont très amis, un petit peu d'ailleurs comme Pinizahavi et José Mourinho, se sont très vite mis d'accord et Mourinho attendait chez lui dans sa très belle maison londonienne et on le tenait informé presque minute par minute et ce matin très très tôt il est arrivé au centre d'entraînement de Tottenham pour donc préparer le nouveau chapitre dans sa carrière.
Nico, t'as d'autres infos? Tu confirmes ça?
C'est vrai qu'on se demandait, on trouvait un peu curieux le timing de l'annonce du départ de Pochettino. C'est juste que Mourinho était déjà bouclé avant que le départ de Pochettino soit annoncé, ce qui paraît plutôt logique aussi. Mais c'est vrai que intéressant maintenant qu'on connaît le dénouement de l'affaire, c'est que il y a eu toutes ces rumeurs Arsenal et notamment aussi un possible retour au Real Madrid. Et finalement, ça fait déjà un moment effectivement que Mourinho discute, et ça fait surtout un moment que c'est Pinizahavi qui discute aussi pour José Mourinho avec les dirigeants de Tottenham. Ouais. Et c'est vrai que alors moi j'ai pas eu confirmation que Mendes était pas du tout dans le deal. On sait qu'il est assez proche de Zahavi aussi, mais c'est vrai que c'est Pinizahavi qui a pris le dossier en main, quoi.
Bon, moi j'aimerais quand même rappeler pourquoi José Mourinho est susceptible ou était susceptible de venir à Tottenham.
On n'a jamais eu autant de Portugais dans l'after là.
Oh, Portugais, franco-portugais quand même. Mais
tu sais, c'est pas une honte. Hein,
non, il y a pas de souci.
Non mais voilà.
Il a juste rétabli la vérité.
Oui, c'est pas faux.
Je peux y aller ou
Quand
tu veux, t'es chez toi.
Ok. donc je disais, moi j'aimerais bien rappeler pourquoi. On parle de José Mourinho, pourquoi il vient de signer à Tottenham? Parce que les dirigeants de ce club ont l'air de l'avoir oublié, parce que c'est quand même grâce au travail d'un homme qui est là depuis 5 ans et demi. Hein, il y a une époque où on parlait plus de Tottenham en rivalité avec, il y avait toujours bien sûr ce derby avec Arsenal, mais en tout cas au niveau du classement, ils étaient plus en rivalité avec West Ham, si on parle de Londres, Everton, ou sans leur manquer de respect, ce genre de clubs qui sont dans la deuxième partie de la première partie de tableau anglaise. Et aujourd'hui, on a un peu, j'ai l'impression en tout cas, mis de côté Pochettino, comme un malpropre, alors que c'est quand même lui qui est vraiment à la base du renouveau de ce club. Bien sûr que les dirigeants et Monsieur Levy a fait également un énorme travail, mais c'est quand même Pochettino qui n'a pas pu recruter l'été dernier parce qu'il y avait ce stade qui avait coûté très cher aux Spurs. C'est quand même Pochettino qui a récupéré cette situation très compliquée avec Eriksen qui devait partir, qui voulait partir, que les dirigeants n'ont pas trouvé la somme qu'il fallait pour pouvoir le laisser partir, et donc il a récupéré un joueur qui était un peu démotivé dans un groupe qui avait besoin de renouveau. Et aujourd'hui, on va chercher un gars comme Mourinho. Nico et moi, on fait partie de la même origine, on sait qu'on l'adore tous, en tout cas pour ce qu'il a fait avant, mais sur ces quelques dernières saisons, honnêtement, que Mourinho, et on est obligé d'en parler, je suis obligé d'en parler, va gagner le double de ce que gagnait Pochettino, qui est l'entraîneur du futur. Et excusez-moi de le dire, mais aujourd'hui, Mourinho, c'est plutôt l'entraîneur du passé.
Par rapport à la philosophie de jeu, toi, tu parles ?
Est-ce qu'il avait mis en place Pochettino?
Par rapport à tout, par rapport à ce qu'avait mis, on avait vu un très beau reportage d'ailleurs sur MC Sport sur Pochettino, l'entraîneur du futur. La façon dont il entraînait, la façon dont il a de manager, de communiquer, c'est quelque chose qui c'est quelqu'un qui dégage beaucoup de choses très positives pour le football et qui est très moderne. Et Mourinho, désolé, mais sa carrière, elle était très très belle entre 2000 et 2010. Allez, on va aller jusqu'à 2015. Mais depuis 2015, ce qu'il nous propose, franchement, on en parle pour la sélection portugaise.
C'est généreux avec 2015. Hein.
Ouais, bon, voilà.
C'est généreux.
Pour être généreux, comme dit, faut pas oublier mes origines. Mais voilà, sans manquer de respect à ce que fait Mourinho depuis 3-4 ans, honnêtement, je comprends pas qu'on puisse donner le double de ce que touchait Pochettino à Mourinho pour le prendre aux Spurs qui ont des envies de titre et qui ont des envies de résultats.
Mais justement, il est peut-être un petit peu, le président, il a peut-être été plutôt pragmatique en se disant, bah tiens, Mourinho, il a, partout où il est passé, il a gagné au moins un titre. Il se dit, bah, les Spurs, aujourd'hui, ce qui leur manque, bah, c'est aussi une ligne au palmarès. Alors, effectivement, moi aussi, j'ai aimé le travail qui a été réalisé par Pochettino sur les belles années de Tottenham. Ils ont fini quand même sur les 5 dernières années, 4 fois dans les 4 premiers de première ligue. Donc, effectivement, le travail, il est assez colossal. Il a fait progresser aussi des jeunes joueurs qui aujourd'hui font partie, en tout cas, font partie du 11 titulaire de l'équipe nationale anglaise. Et maintenant, malheureusement pour lui, il a pas gagné de titre et il a besoin peut-être d'un mec comme Mourinho, bah qui peut-être n'a pas de philosophie de jeu comme à Pochettino, mais il a cette culture.
Chose qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs.
Ouais, non, mais c'est très caricatural souvent. Ça. Non, mais ce que je veux dire, moi, c'est qu'il a il est plutôt stratégique, il est dans la réflexion tactique pour proposer des problèmes à l'adversaire. Alors, c'est peut-être pas ce qui nous séduit.
Mais c'est ce que Pochettino a beaucoup fait en Ligue des Champions, notamment la saison dernière. Moi, j'ai souvenir de. C'est marrant parce qu'on a préparé pas mal de choses là-dessus pour Footissime ce soir sur Mourinho, et notamment son rôle de pundit, de consultant en Angleterre. C'est très intéressant les analyses qu'avait José Mourinho sur le jeu de Tottenham, notamment en Ligue des Champions. Et le match face à l'Ajax, notamment, c'est ce que Mourinho dit très justement. Il dit aujourd'hui, ce match, la victoire 3-2 de Tottenham, c'était la victoire de la stratégie face à la philosophie
de jeu. Ouais.
Et finalement, c'est très ça. Et d'ailleurs, Pochettino et Mourinho s'apprécient beaucoup. Je pense qu'il y a un certain pragmatisme dans lequel ils se retrouvent. Après, pour répondre à ce que tu dis, Kevin. Je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est des considérations qui sont différentes. Il y avait peut-être très certainement une certaine usure. Quand tu vois aujourd'hui les raisons qui sont avancées par la presse en Angleterre pour lesquelles Pochettino est parti, ça se passait pas bien, les relations avec Levy. Il est là depuis 2014. C'est long. C'est très long pour un coach, un 5 ans dans un
club. Mais c'était déjà l'année trop. On savait déjà qu'après la saison dernière.
Il a pas pu recruter il y a 2 ans. Il y a beaucoup de choses qui font que. Après,
vous êtes dans l'after, là, vous pourriez laisser la parole à Daniel Riolo.
Juste un truc. Je sais que Daniel n'aime pas ça, mais je pense que Levy aussi a réfléchi comme ça. Tu le disais lors tout à l'heure. C'est marrant, il y a une stat qui est quand même complètement dingue. Mais Levy l'a vu très certainement. Tottenham, depuis la création de son histoire, en 113 saisons, c'est 24 trophées remportés au premier niveau. Mourinho, c'est 25. C'est complètement dingue de se dire que ce mec a plus de trophées que Tottenham. Mm-hmm. Et Levy, il en a marre d'être à la place du con. Et il se dit peut-être que je vais aller chercher un mec que je vais garder 2 ans. Il va peut-être tout me révolutionner là-dedans et peut-être même me foutre un certain bordel et mettre des coups de pied au cul là où il faut. Mais il a eu un coach pendant 5 ans. Et là, effectivement, c'est une forme de révolution qui s'opère à Tottenham. Ça marchera ou pas? Ça, on verra.
Alors Daniel, quel est ton point de vue sur tout ça?
Déjà, la garantie qu'avec Mourinho tu gagnes un titre, j'en suis absolument pas convaincu, surtout aujourd'hui. Je trouve que c'est un entraîneur qui est très très fatigué. Le repos au poste Manchester lui aura peut-être fait du bien, mais ce qui s'est passé sur la fin à Manchester, c'est assez terrible, aussi bien pour lui, pour Manchester, pour ses conceptions du foot, où on a peut-être caricaturé à un moment ses préférences défensives, sauf que sur les dernières années, il les a exagérées de lui-même, justement pour rester dans une posture négative et pour s'opposer à tous les autres qui lui disaient qu'il jouait mal et qui passaient leur temps à glorifier la nouvelle génération, on va dire les fils de Guardiola, Pochettino et tous ces entraîneurs-là. Et lui, c'est parce qu'il aime s'enfermer dans des postures, il aime s'occuper de son personnage plus que du club qu'il entraîne d'ailleurs. Lui a beaucoup sombré dans ce négativisme du football et effectivement il est allé bien au-delà de l'époque où il était pragmatique, où il pouvait alterner jeu, pas jeu, voilà. En Angleterre, c'est, Julien va me corriger, mais il n'y a pas un accueil délirant autour de Mourinho à Tottenham. J'ai lu plusieurs articles dans la presse avec même certains qui carrément élaboraient le scénario en disant bah, de toute façon on sait toujours comment ça se passe avec lui. La première année il va y avoir séduction, la deuxième il peut y avoir des résultats et la troisième ce sera le bordel. Et il demandera à partir où il se fera virer avec un énorme chèque. Le chèque il l'a déjà pris, il est énorme. C'est vrai que ça paraît complètement dingue qu'on lui donne beaucoup plus que Pochettino. C'est le choix de Daniel Levy. Je ne sais pas s'il y a, comme tu dis Nico, l'idée qu'avec lui je vais enfin gagner quelque chose. Franchement, j'attends de voir. Parce que si Tottenham, avec Pochettino, n'a pas gagné de titre, c'est peut-être aussi parce que, très franchement, si tu regardais
son effectif,
l'effectif et la feuille de match, par rapport aux gros qui gagnaient, que ce soit City, Liverpool, franchement, les joueurs étaient clairement de niveau inférieur. Et que d'aller même en finale de la Ligue des Champions, c'était une grosse performance. Que de se classer sans arrêt top 4 en Angleterre, ça devient une grosse performance vu la concurrence féroce qu'il y a dans ce championnat-là. Bah, ok, Pochettino, il a peut-être pas gagné de titre, mais je me demande vraiment si les supporters de Tottenham, qui en plus, il faut le savoir, historiquement, est un club qui a toujours mis en avant le jeu. Donc, Mourinho va devenir un entraîneur sorte d'opposant à l'histoire et à la tradition de Tottenham.
Il y a eu quelques déclats aussi qui ont été ressortis, alors même si c'était dans un contexte particulier. Ah. Mais après, juste pour en revenir à ce que tu disais par rapport aux joueurs.
Et ensuite, Julien Laurence, pour qu'il puisse dire ce qui se dit en Angleterre.
T'as raison par rapport aux joueurs, etc. Moi, j'ai du mal à imaginer que Mourinho ait accepté ce projet au-delà du salaire que lui touchera.
Sans recruter.
Voilà, sans avoir la garantie d'avoir une enveloppe importante pour recruter des joueurs. Surtout que Mourinho.
Daniel Levy donne des garanties de dépenses d'oseille maintenant. Alors ça, j'aimerais bien voir ça.
On parle de Gareth Bale.
Et ça, c'est un héritage qu'il avait d'ailleurs quand son père était entraîneur, parce que lui, gamin, suivait. Je prépare un livre sur Mourinho, tiens, je vous le dis. C'est un truc qu'il a hérité de son père qui était entraîneur, qu'il avait suivi quand il était gamin. Il a toujours ramené des soldats à lui par les clubs là où il est passé. Moi, je mets une pièce, j'ai aucune info, hein, mais je sens gros comme une baraque que l'été prochain, Matic part à Tottenham. Voilà, il lui restera un an de contrat avec United.
Qui ça?
Matic. Il n'a pas trop marché à Manchester. Hein.
Ouais, justement.
Qui est ce joueur?
Justement.
C'est ça, c'est le gros recrutement, ça?
Non, c'est pas un gros recrutement. Je te dis qu'il va faire venir des soldats, lui. Je
suis en train de
te parler de.
Sur ce que t'entends là. T'es d'accord?
Oui, je suis d'accord. Après, moi, le salaire de Mourinho, si tu veux t'offrir Mourinho parce que tu penses que c'est lui qui va faire gagner ton équipe, c'est le prix qui coûte. Soit t'es prêt à mettre l'argent, t'es pas prêt à mettre l'argent. C'est ce qui gagnait plus ou moins à Manchester United. On va arrondir.
Julien, donc, juste si tu coupes une seconde. Mais moi, tu sais ce que j'aurais aimé de la part de Mourinho? C'est que justement, lui qui a crié, on l'a vu même avoir les larmes aux yeux dans une certaine interview. Moi, j'aurais aimé, justement, qu'il accepte un salaire décent de Premier League, par exemple, comme avait Pochettino, pour montrer à tout le monde, voilà, moi, l'argent, j'en ai pas besoin aujourd'hui, par contre, j'ai envie d'entraîner, je vais vous montrer
que
je suis pas fini.
Mais ça fait partie de l'ego, Kevin.
Pourquoi il ferait ça? Il a pas besoin.
Il y a un moment, non.
Bah, il a pas besoin, on lui donne cet argent-là. Il a pas besoin de payer son salaire.
Là, c'est ça qui l'intéresse, hein. C'est pas ce que gagne Pochettino.
Mais aujourd'hui, il est pas au niveau de Guardiola.
Mais lui, il se considère.
Non, mais c'est même pas que ça, c'est son salaire.
Dans les plus grands.
C'est son salaire, c'est la valeur qu'il avait avant, c'est son salaire.
Tu dis, bah, on te file 17 millions, oh non, je vais en prendre 10, moi.
C'est lui qui l'a demandé, hein, c'est pas.
On te demande lui a donné.
Alors, autre info.
C'est ce que je te dis. Non, mais si Daniel Levy veut péter le portefeuille, même sur le recrutement,
c'est
ça.
Exactement, c'est ça.
On verra bien, on va voir.
Après, juste pour finir, Gilbert, rapidement, personne ne sait ici le budget qu'aura Mourinho et qu'auront les Spurs au mois de janvier pour recruter, et puis bien sûr après l'été prochain. Il est bien évident que Mourinho a dû sûrement demander des garanties par rapport à ça. Et il y a une stat qui a beaucoup amusé toute l'Angleterre aujourd'hui. Depuis l'arrivée de Mourinho en Angleterre, sur ses années anglaises, donc depuis 2004 à Chelsea jusqu'à aujourd'hui, il a dépensé plus d'argent en transfert dans les clubs où il a été en Angleterre, simplement en Angleterre, que Daniel Levy lors de ses 18 ans à la tête de Tottenham, à lui tout seul pour le club entier. Donc il est bien sûr incroyable de dire qu'aujourd'hui il y aurait pas d'argent pour que Mourinho dépense. Il va forcément recruter des joueurs en janvier. Il va peut-être laisser partir même ceux qui seront en fin de contrat pour éviter qu'ils partent gratuitement. Les Vertonghen, Alderweireld et Eriksen, bien sûr, peut-être qu'ils partiront en janvier pour récupérer un petit peu d'argent et le réinvestir ensuite. Mais je vois pas comment Mourinho aurait pu accepter ce challenge-là, ce projet-là, sans avoir au moins de l'assurance sur un certain montant à pouvoir dépenser en janvier l'été prochain.
Alors il embarque avec lui deux membres portugais du staff de Lille.
Lille. Ouais.
Donc Sacramento et Nuno Santos, donc entraîneur adjoint et entraîneur des gardiens.
Nuno. Pas nous.
Je dis comme je veux, d'accord.
Mais c'est pas un espagnol qui se fait. Tu m'en fous. C'est des compatriotes, tu l'as dit toi.
Eh ben, je vais dire Santos alors. voilà. Donc il quitte le LOSC pour rejoindre Mourinho.
Le LOSC qui fait une sorte d'office de serpillière de Mourinho. Genre, je vais me servir chez toi. Non, mais il n'y a pas de mail. Je prends les mecs, je me casse en cours de route.
Oui, je sais pas si Galtier apprécie quand même.
Ça, mais Galtier, il s'en fout, puisque au-dessus, on lui dit tu fais, il fait. Hein. Il avait accepté que ça puisse se passer comme ça à Lille en y arrivant.
Après, c'est une vraie
peut-être qu'il
n'avait
pas imaginé qu'on lui enlève des adjoints en cours de route. Mais voilà, très bien.
Non, c'est une vraie
moi, je trouve ça complètement fou. Hein, pour
à Lille
ouais, ouais, c'est, bah, c'est oui, c'est. Alors, juste que vous sachiez quand même.
C'est honteux.
Alors, Joan Sacramento, qui est de la très belle ville de Barcelos, bien sûr, d'où je suis originaire. Et Nuno Santos, juste que vous sachiez l'histoire, parce qu'il a une vraie belle histoire avec Mourinho. En fait, Nuno Santos est un ancien gardien qui est passé notamment par le Benfica. Et en fait, quand Mourinho a débuté sa carrière d'entraîneur, il entraînait les jeunes du Vitória de Setúbal. Et Nuno Santos, c'était son gardien. En fait, ils se connaissent depuis 20 ans, quoi, plus de 20 ans déjà. Ils sont vraiment très proches, les deux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Nuno Santos accompagner Mourinho dans ce projet.
Finalement, quand Mourinho allait à Lille, là,
c'était pour voir ses potes.
Galtier, peut-être que Galtier, j'ai des purées.
Non, mais ils se connaissent pas. Ils sont très proches de Campos, de Luis Campos, le directeur sportif, le coordinateur technique du LOSC.
On va conclure.
Je pense que la prochaine étape d'ailleurs, je pense que c'est Luis Campos. Il faudra vérifier ça et suivre ça de très près. Je pense que Mourinho va essayer d'attirer Luis Campos à Tottenham pour en faire son directeur sportif. Rappelez-vous, hein, ils ont travaillé ensemble, Nico, tu sais, au Real Madrid où
ouais,
ils faisaient partie du même staff.
Il est parti pour l'instant, Luis Campos.
Peut-être pas, mais après, c'est un projet qui pourrait aussi énormément l'intéresser.
Oui, comme beaucoup.
Oui, non, mais bon. Il paraît que Galtier, il y a deux semaines, portait un costume. Mourinho va aller le chercher. Ça lui a plu. Tu
le
dessapes,
costume ou le.
Ah, non, le costume. Ah, le tu costume. Te dessapes, tu me le files. Non, mais tu me donnes. Lille, c'est. Voilà, c'est la cafette de Mourinho.
On va faire un transfert de costume.
Ah, ouais, non, mais
le trading ultime.
Il peut tout lui prendre.
On va conclure avec Manu, qui est là, supporter de Benfica. Salut Manu.
Salut à tous.
Salut Manu.
Alors, tu voulais dire un mot sur Mourinho?
Ouais, alors bon, j'appelais parce que, en fait, on anticipe déjà le fait qu'il va jouer défensif, qu'il va jouer pour gagner des titres, qu'on va s'emmerder, etc., etc., comme à chaque fois qu'on parle de Mourinho. Alors, il y a une chose que je voudrais quand même rétablir, c'est que Mourinho, depuis toutes les équipes qu'il a pu prendre jusqu'à aujourd'hui, il a toujours joué avec des joueurs à qui donner les clés, en fait. Et je parle de l'attaque. Parce que pour le défensif, c'est comme tout le monde, il demande un replacement défensif à tous ses joueurs. En ce qui concerne l'attaque, enfin, pour moi, il donne les clés à des joueurs comme par exemple Ozil au Real. La dernière fois que Ozil a bien joué, a été vraiment protagoniste dans le jeu, c'était au Real. C'était un 10. Alors, pas un 10 comme on l'entend à l'ancienne, mais je veux dire, d'ailleurs, le 10 c'est cher à la ligne de l'after. Je trouve que Mourinho, alors, c'est un peu inédit ce que je dis, c'est peut-être un peu risqué, c'est pas une position facile, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut faire jouer des joueurs. Par exemple, Eriksen, il va lui donner les clés du jeu, par exemple, à Tottenham.
Ah, tiens, Kevin, tu veux répondre parce que c'est toi qui l'as un peu allumé sur, sur le style.
Non, mais Eriksen, en fait, il est plus à Tottenham, Manu. Donc ça y est, pour lui, il y est plus. Donc Mourinho va pas lui donner beaucoup de temps de jeu puisque il va sûrement partir cet hiver.
Ah, mais si au cours d'une discussion, justement, Mourinho réussissait peut-être à faire changer les choses et à faire rester Eriksen.
Laure, tu as été comme moi dans un vestiaire. On me dit, ah oui, mais il va récupérer la génération de Pochettino et donc il peut jouer comme Pochettino.
Mais je dis pas que tu vas jouer comme lui, mais peut-être qu'il a envie de s'appuyer sur ce genre de joueurs.
Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'il y a beaucoup de joueurs en Europe qui veulent jouer avec Mourinho?
Je pense que Dombélé, Sissoko, Aurier, ça va lui plaire.
Ouais.
Mais non, ça c'est un lieu commun.
Sinon, Nico, je constate avec notre.
Attends, laisse finir Manu, Daniel, s'il te plaît.
Je constate que les footiques au Portugal, ça existe aussi alors.
Le dernier club en date.
Je vais lui expliquer après pourquoi c'en est un.
Au dernier club en date à Manchester, il a donné les clés à Pogba. Qu'est-ce que Pogba il a fait de la créativité à Manchester? Il lui a tourné le dos et en plus il l'a allumé quand il est parti. C'est ce qu'il a fait Pogba. Et pour moi, Mourinho, il n'hésite pas en vérité à donner les clés.
Tu sais c'est quoi le problème de Mourinho aujourd'hui? En tout cas, d'un point de vue extérieur, c'est qu'il a un peu le problème qu'on a reproché à Thierry Henry. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Mourinho, il est plus important que l'équipe. Mais aujourd'hui, un entraîneur, c'est Willy Sagnol qui avait dit ça sur RMC il y a quelques semaines en parlant de Thierry Henry, je suis complètement d'accord avec lui. Aujourd'hui, un entraîneur, il est au service de ses joueurs. Ok, un entraîneur, c'est fini les entraîneurs comme Mourinho qui veulent être toujours en avant. Laisse-moi terminer. Tu vois, regarde. Tu vois, si tu as Twitter, je te conseille de regarder tous les joueurs de Tottenham aujourd'hui, les tweets qu'ils ont envers Mauricio Pochettino. Bien et sûr. Tu vas voir les anciens joueurs de Mourinho ou les anciens joueurs de beaucoup d'entraîneurs et tu verras si ça arrive souvent. Et ça, c'est la plus grande preuve d'affection que peut montrer un joueur de foot à son entraîneur qui vient de se faire virer. Et donc bravo à Pochettino parce que ce qu'il a fait, c'est magnifique.
Voilà, attends, Daniel, Manu, je veux dire un truc à Manu et après on arrive.
Toi qui es supporter de Benfica, en entraîneur, tu préfères Jorge Jesus ou Mourinho ?
Alors ça c'est une question difficile parce que moi, supporter de Benfica, c'est un sacerdoce parce que je te le dis, c'est pas.
Non
facile,
mais moi je te parle en entraîneur, en philosophie de jeu, en entraîneur.
En entraîneur. Mmh. Aujourd'hui, tu me dis Mourinho, il me fait gagner la Coupe d'Europe. Je prends Mourinho parce que je l'ai jamais vécu.
Je te dis pas ça. Maintenant, je te dis qu'est-ce que tu préfères comme type d'entraîneur pour le jeu. T'es un passionné de foot ou pas?
Non, mais je sais vers quoi tu veux sur quel.
Non, tu sais vers quoi je vais te faire emmener. Je vais te faire emmener qu'en fait ton discours, il vaut rien du tout parce que t'es juste là pour défendre Mourinho parce que c'est un Portugais comme toi.
Je t'explique.
Voilà, c'est tout. Moi, ce genre de propos-là, moi, ça m'agace. Ça m'agace. À un moment, sort du truc. Faut avoir des goûts. On s'en fout du drapeau, de la nationalité, du communautarisme. J'ai bien compris que ton truc, c'était.
Moi, il a fait.
Il défend Mourinho parce qu'il est portugais.
Moi, il défend sa nationalité. Mélange pas tout.
Qu'est-ce que tu mets du communautarisme? Il est supporter de Benfica. Il a des goûts pour les joueurs ou pas? C'est pour ça que je te demande.
Qu'est-ce que tu parles de communautarisme là-dedans?
Le mec, il téléphone.
Il fait jamais allusion à sa nationalité. C'est toi qui l'amène là-dessus.
Je défends Mourinho parce qu'il est portugais comme moi.
Il a jamais dit ça, Daniel.
Mais
tu viens nous parler.
Il a pas besoin de le dire. Il a pas besoin de le dire. C'est clair et net.
Toi, tu sais mieux que lui ce qu'il
oui,
pense.
Oui, mais c'est tellement évident que ça crève les yeux. C'est, c'est comme ça. Ouais, je le défends parce qu'il est portugais.
Il se serait appelé Jean-Louis, ça aurait été un spécialiste. Mais là, comme il s'appelle Manu, c'est un communautariste. Voilà,
non,
c'est ça.
Il est d'origine portugaise, c'est supporter
oui,
de Benfica.
Il est d'origine portugaise, donc il est communautariste.
Il défend tous les Portugais sans réfléchir. Voilà.
Bien sûr, c'est ça.
Le mot de la fin. Il n'y a pas que lui qui le fait, tu le fais aussi. Il y a énormément de gens qui le font.
Moi, je fais du communautarisme, moi.
Non. Le mot de la fin sera pour Manu.
Il a des goûts pour le jeu.
Il va pouvoir se défendre.
Dis-moi, Mourinho, tu n'aimes pas son jeu.
Non, j'aime pas son jeu actuel.
Ah, mais déjà, c'est nouveau, tu l'avais pas dit. Ça me fait plaisir.
Mot de la fin pour Manu et personne ne répond. Après, ensuite, on arrête. Manu.
Non, ce que je disais, si je suis supporter, admettons, du Barça, je vais te dire, je préfère le jeu. Maintenant, tu me parles en tant que supporter de Benfica, qui a jamais gagné une Coupe d'Europe, qui a vu de toute son enfance que des finales perdues. Donc là, je te dresse le contexte, je te dis, oui, je préfère Mourinho. Maintenant,
très bien.
Tu me dis, regardez les matchs, etc.
Ah, bah,
oui, peut-être que Jesus, c'est mieux. Quoique, le Porto de 2004, quand tu le regardais, c'était pas déplaisant. L'Inter, c'était pas déplaisant. On lui a collé une étiquette parce qu'il a joué 11 contre 10 contre le meilleur Barça de tous les temps.
Donc, Manu,
on lui a pas collé d'étiquette parce qu'à cette époque-là, je le défendais justement contre les caricatures. Je l'ai toujours défendu. Mais aujourd'hui, on ne peut pas le défendre parce que ce qu'il a fait récemment ne mérite pas d'être défendu. Moi, le Mourinho 2004-2010, c'est mon entraîneur préféré. C'est l'entraîneur du 21e siècle. C'est lui qui a révolutionné le métier. C'est le gars qui a apporté des choses. Mais qu'on le défende uniquement parce que j'ai la même origine que lui, putain, mais ça me fout en l'air. Ça me fout en l'air.
Mais juste, alors là, en revanche, c'est intéressant. Ça me rappelle les débats qu'on avait eu ici en 2016, notamment par rapport au jeu, c'est que le Portugal, pendant de nombreuses années, souvenez-vous de la génération dorée, la génération 2000, avait un très beau jeu, des très beaux joueurs, et il gagnait jamais rien. Et c'est vrai que Mourinho.
Mais là, c'est pas pareil.
Laisse-moi finir. Mourinho a un peu légitimé ce que Fernando Santos a fait en 2016. C'est-à-dire qu'il a gagné à travers le pragmatisme, chose que le Portugal ne faisait pas. Il valorisait beaucoup l'esthétisme. Et c'est vrai que. Il a basculé dans une certaine caricature et beaucoup ont cautionné
ça. Je l'ai compris, mais comme j'ai toujours dit, Santos, il l'a gagné. Mourinho, il gagne plus rien depuis des années. Il est en embrouille dans tous ses clubs.
10 minutes,
il est partout où il va, ça se passe mal. Peut-être qu'il va réussir à Tottenham, mais on peut pas dire que ces derniers temps.
Moi, je veux, mais faut qu'on s'engueule encore une fois.
Ses résultats ont été bons, non? Ça s'est mal passé, ça.
Ça faisait longtemps,
mais
c'est.
Mais non, mais moi, ce que je veux pas, c'est qu'on défende a priori.
Tu t'es pas énervé, franchement. Tu viens 5 minutes,
putain, ça m'énerve.
Je vais pas le dire. Mais j'embrasse Marlène, bien sûr.
Allez, à tout de suite.
C'est qui Marlène ?
RMC, 21h30.
L'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là, c'est l'after avec un casting de rêve ce soir. Kevin Diaz, Laure Le Payeur, Nicolas Villas de retour, messieurs dames. Et oui, plus Daniel Arrivo.
Oui, dès qu'il arrive, c'est chaud là aussi, il nous fait chier.
Alors on me dit
t'as besoin de revenir pour mettre le feu, c'était très calme jusqu'à toi.
Franchement, ça m'avait manqué. Vous m'avez manqué d'ailleurs.
Sur Direct Studio, me dit.
On se voit avec Laure sur l'Europa League.
Oui. La plus belle barbe du PAF est de retour. Dit-on.
Je pense que c'est moi d'ailleurs.
Ça a continué pendant la pub. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis, on devrait continuer l'émission parallèle pendant la pub parce que c'est pas mal.
Tu sais que ça existe
pas mal.
Tu sais que ça existe aux États-Unis avec Trevor Noah qui a un show et qui met sur Facebook les petites scènes qui se passent.
Franchement, il y a des bonus tracks qui sont pas mal. Dis Kevin que t'as compris ce que je voulais dire là.
Il voulait expliquer.
J'ai compris ce que tu voulais. voulez bon, dire enfin, pourquoi
pardon, mais moi, des fois, pendant la pub, je préférerais qu'on mette pas. Parce que,
non, mais moi, je pense qu'on
va avoir des problèmes.
Moi, je prends Kevin comme traducteur maintenant.
Ok, moi, je prends
Gilbert Bribois. Attends, on va donc, je vais traduire. Non, c'était juste pour dire que.
Sur Mourinho, je rappelle que Julien Laurent.
Sur Mourinho, moi, à l'époque où il était au Real.
J'ai dit à Manu.
Où il était au Real, il y avait Barcelone avec un certain Guardiola en face et Messi. Et il y avait donc Mourinho et Cristiano d'un côté. Et comme beaucoup de Portugais ou de personnes d'origine portugaise ou aimant le football portugais, j'étais à fond Mourinho et Cristiano. Et pourtant, ils faisaient un jeu horrible. Et moi qui adore le football. Mais voilà, j'aimais ce joueur, j'aimais cet entraîneur et ce qu'il avait proposé notamment avant avec l'Inter, etc. Et j'étais pas très objectif sur ma vision du football de base, qui était plutôt en adéquation avec ce que proposait le Barça de Guardiola. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça me... Je perdais un peu cette objectivité, mais j'en étais conscient.
Oui, mais alors, attends.
Voilà, j'étais pour Cristiano, j'étais pour Mourinho.
Mais tu sais comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle un supporter, hein. C'est pas un communautariste, hein.
On va, supporter du Real. Non, mais,
faut juste remettre.
Non, mais faut juste remettre. D'un entraîneur.
Faut juste remettre. Faut juste remettre. Faut juste remettre. Faut juste remettre. Au centre de la mosquée.
Mais pas la main. Non, pas la main dans la tronche. Ça veut dire que tu juges le mec en fonction de ce qu'il est.
Alors, je vais même aller plus loin.
Ce qu'il est, ça s'appelle comment?
Je vais même aller plus loin.
Moi, je m'en fous, moi.
Daniel, tu connais, moi, ma posture par rapport au clubisme, pour moi, c'est du même acabit. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de Manu. Moi là, je suis pas d'accord avec toi, c'est que Manu, il est benfiquiste. Alors,
mais Manu, c'est un gros footique. S'il est Benfica, il défend Mourinho, c'est encore pire que tout.
Mourinho, il débute sa carrière au Benfica. Il part pour des raisons présidentielles et institutionnelles.
C'est devenu un dragon.
On est d'accord. Enfin, bon. Même s'il a failli aller au Sporting entre temps. Enfin, d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que Mourinho, il fait 4 ans au Barça. C'est le club dans lequel il a le plus bossé en tant qu'adjoint. Il fait le Real, il a fait le Porto, il a fait le Benfica, il a failli faire le Sporting. Là, il a fait Chelsea, il va faire Tottenham. Enfin, voilà, les considérations. Et tu verras que le prochain, ce sera Porto pour lui. Mais tout ça pour te dire que, pour moi, c'est un peu du même acabit. C'est-à-dire, moi, je connais des mecs qui supportent des clubs parce qu'il y a un joueur qui a joué dans le club qui kiffe au Portugal. Et comme maintenant il est là, bah, ils aiment ce club-là. Voilà. Et
alors, non, mais ouais, ça existe.
Comme moi, c'est le mot communautarisme que je trouve.
Nico, ah non, ça, c'est un peu
disproportionné. Entendons-nous bien. Que Manu dit ça, moi, je m'en fous. Je l'attaque et tout, mais il a le droit. Mais moi, je suis journaliste. Je suis obligé, d'abord, moi je suis le plus neutre possible et tout le temps, je suis obligé de voir que son avis, il a le droit de l'avoir, mais c'est un avis de supporter, et là en l'occurrence, on va dire de supporter. Supra-club, supporter de quelqu'un qui est emblématique de son pays. Donc c'est totalement déconnecté de toute objectivité. Donc moi je suis obligé de le souligner.
Mais Daniel,
son avis... Bon,
mais Daniel, okay, un Français qui kiffe le Real parce qu'il aime Zidane, c'est un communautariste?
Bah, ça me fait chier qu'on puisse avoir juste cet avis-là. C'est basique. Bon, non, moi, bah, c'est super basique.
Oublions cette question parce que Nico,
non, il a le droit de l'avoir, mais pas moi en tant que journaliste. Tu vois, il y a une différence.
Ouais, lui, il n'est pas journaliste, il est supporter.
Mais c'est pour ça que je lui donne le droit.
Voilà.
Mais moi, je dois éclairer que son avis n'est pas totalement recevable. Je sais le monde, mais il n'est pas complètement recevable.
Que sais-tu, Nico, du fantasme PSG Mourinho?
Alors, moi, j'aurais kiffé vraiment qui viennent en Ligue 1. Alors parce que pour plein de raisons, parce qu'il aurait
été... Mais il aurait eu envie.
Hein?
Il aurait eu envie.
Mais lui, alors pour plein de raisons.
Le PSG, il voulait.
PSG, je pense qu'il voulait. Le PSG était vraiment devenu quasi obsessionnel ces derniers mois. C'est-à-dire que voilà, il attendait de voir si une brèche pouvait s'ouvrir. Alors le départ d'Antero Henrique a fait que il y a très certainement une petite porte qui était entrouverte qui s'est vraiment refermée. Ils sont très proches depuis l'époque FC Porto tous les deux. Alors il y a aussi un aspect, c'est que il adore Paris. Ses gamins adorent Paris, aussi bien sa fille, c'est sa fille, donc qui s'appelle
Mathilde.
Et
José Mario Junior.
Donc les deux adorent la ville. Il a déjà fait des interviews où il l'expliquait. Et puis surtout, alors c'est là où lui il a cette obsession aussi de la stat et du résultat, etc. C'est qu'il aurait gagné dans un nouveau pays. Au fait, ouais. Il a été champion au Portugal, il a été champion en Espagne,
ouais, au PSG,
il a été champion en Angleterre.
Moins dur des titres à gagner.
Voilà,
alors.
Il a été champion en Italie. Il aurait été champion en France. Ça aurait été le premier à faire ça. Mm-hmm. Et lui, il y avait ça aussi qui venait se rajouter à ça. Et surtout, ça va toujours dans la mouvance et dans le discours qu'il a eu ces derniers temps. On en revient notamment à ce qu'on disait sur Jean-Michel Aulas, c'est que lui, il a toujours dit, je me souviens, il a même fait une interview au Portugal là, il y a quelques semaines, il disait, moi je préfère jouer le titre en 3e division au Portugal plutôt que de jouer le maintien en première ligue, parce qu'il avait été approché par Newcastle notamment à ce moment-là. Il dit, moi c'est pas des questions d'oseille, de machin et tout, il y a pas que ça qui rentre en ligne de compte. C'est moi, il le dit même, il emploie l'expression, c'est pathologique chez moi En fait, ils me font un club okay. pour gagner.
Merci Nico. Ce soir, tu présentes Footissime.
À 22h40.
Voilà, il y a quoi dans Footissime ce soir ?
En Footissime, il y aura du Mourinho forcément. Vous allez voir, mais très sincèrement, c'est vraiment fait chier à retrouver tout ça. Il y a toutes donc les fameuses phrases en tant que pundit, mm-hmm. en tant que consultant en Angleterre sur Tottenham. Il y a vraiment des trucs croustillants quand même.
Hein, bon, évidemment, moi, ce que je vous conseille, c'est d'écouter l'after jusqu'au bout et de regarder Footissime en replay.
Antoine Billard, qui sera chez vous, il sera après chez nous.
Il récupère nos invités en loose day, lui.
Vous allez parler de l'épopée ?
Ouais. Je sais que ça a été kiffé ça.
Fini à 23h.
Tu finis à 23h ? Bah, tu pourras piquer une tête, on sera encore là pendant 40 minutes, bien entendu. Enfin, 20 minutes encore. Et puis,
voilà. Il y a un là, Kevin, il est bon sur Mourinho, je vais me le récupérer dans le
c'est ça, mon entraîneur. Hein. Savoir utiliser ses éléments.
Ah. Après, merci Nico. Pour moi, c'est un entraîneur et un personnage absolument fascinant.
Alors, moi, il y a vraiment.
Une icône.
Absolument.
C'est une légende. Le taf sur lequel j'ai fait, non, mais pour en revenir au personnage, il a vraiment une histoire personnelle et notamment son passé de joueur, etc., qui est complètement méconnu parce qu'il a verrouillé vraiment les gens pour qu'ils puissent en parler. Moi, je me suis vraiment fiché pour en avoir. Et c'est vraiment passionnant et complètement dingue, en fait, comme histoire. On appelle ça du teasing. Bonne soirée.
Salut, Nico. Julien, pour conclure avec toi, l'autre affaire du jour, c'est Gareth Bale. Alors, rappelons ce qui s'est passé après le match du Pays de Galles, donc, qui se qualifie pour l'Euro hier. Un drapeau, il pose avec l'équipe avec un drapeau où c'est marqué dessus dans l'ordre, hein, Wales, Golf, Madrid. Et le mec mort de rire. Alors bon, on peut considérer évidemment que c'est un énorme chambrage. On peut dire que c'est drôle, je sais pas. Chacun a son avis. Enfin, évidemment qu'en Espagne, ça a pas trop fait marrer. Julien, qu'est-ce qu'on en a dit au Pays de Galles et en Angleterre ?
Alors eux, en revanche, ça les a beaucoup fait rire, les Anglais. Effectivement, déjà que Gareth Bale n'avait pas beaucoup d'amis à Madrid, je pense qu'il en a encore moins après cette histoire. Il faut juste remonter un tout petit peu en arrière. Hein, avant le premier match du Pays de Galles dans la trêve internationale, la victoire en Azerbaïdjan, il avait dit, mais c'est vrai que je m'amuse plus quand je suis avec la sélection qu'avec le Real Madrid. La sélection, c'est un peu comme jouer avec tes potes le dimanche après-midi au square en bas de chez toi. Déjà, ces propos-là avaient été très mal vécus à Madrid, où tout le monde se disait, mais c'est pas possible, c'est nous qui payons son salaire mirobolant et il préfère jouer avec la sélection. Après ces propos-là, donc, ce supporter avait fait ce drapeau qu'il avait déjà emmené avec lui à l'extérieur pour ce match. Et donc là, il était de nouveau là à Cardiff et Bale s'est retrouvé avec le drapeau à la fin pour les célébrations. Et c'est vrai que ça a beaucoup fait rire en Angleterre, mais beaucoup moins à Madrid.
Bon, moi, je suis curieux de voir comment il va être reçu au retour par les supporters et tout. C'est quand même chaud, hein, cette histoire. Donc,
bon. Moi, je trouve ça scandaleux. Tu dois respecter quand même ton club.
Bah, franchement, oui. Enfin, Tottenham, c'est...
Bah, ça peut être une option. Et puis, exactement. Dès la trêve hivernale.
Là, ce sera Manchester United exactement. Ou Tottenham, je pense.
Donc, en fait, il savait que Pochettino s'était fait virer.
Donné à José.
Peut-être.
Il s'est dit, tiens, sortez pas le drapeau, les gars, là, parce que, hop, ça peut m'arranger.
Mais bon. De toute façon, moi, je trouve que c'est un joueur qui, si on reste sur l'aspect footballistique, je sais pas si Julien ou Daniel ou Laure seront d'accord avec moi. Pour moi, il a raté sa carrière. Il a raté sa carrière parce que pour moi, c'était un arrière-gauche. Un arrière-gauche offensif dans un 3-4-3, dans un 3-5-2. Et c'est un joueur qui a été spectre ailier droit. Alors oui, il a fait des belles choses parce qu'il a des qualités exceptionnelles. Mais en tant que, aujourd'hui, il y a tellement peu de joueurs qui arrivent à jouer au très haut niveau en tant que latéraux aujourd'hui. Pour moi, Gareth Bale, ça aurait pu être le meilleur arrière-gauche de tous les temps.
Peut-être qu'à Tottenham, Mourinho peut lui réinventer son poste.
Non, moi, je suis pas là, Kevin, je suis pas d'accord.
Bon, en tout cas, j'ai toujours pensé sur ce joueur.
Ouais, mais non, parce que
depuis ce but face à l'Inter.
Non, mais d'accord, mais le fait qu'il se révèle à ce poste-là et dans cette fameuse action qu'à l'époque avait fait le tour du monde. Ok, mais je pense que justement, c'était un faux arrière-gauche. Quand on le découvre à ce moment-là.
Dans un 3-4-3 aujourd'hui ?
Ouais, mais je pense qu'à ce moment-là, c'est un faux arrière-gauche. Et l'avoir monté sur le terrain, ça lui a donné plus de liberté. Je pense qu'en restant défenseur...
Non, mais tu sais, t'es pas défenseur.
Il n'aurait pas pu se canaliser.
Mais tu sais, Daniel, fond,
mais que dans ce système-là,
t'as le jeu devant toi. T'as le jeu devant toi. Quand tu joues sur la ligne des attaquants, je peux te dire, pour avoir l'expérience, c'est beaucoup plus difficile de jouer ailier que de jouer arrière-gauche dans une équipe qui a le ballon, comme il a toujours fait partie de.
C'est plus facile de partir de plus loin.
Ce mec-là, il n'a pas tiré totalement profit de tout ce qu'il pouvait faire, peut-être, mais sa carrière, c'est pas un gâchis. Le mec,
dans
la finale de Ligue des Champions 2014.
Non, mais par contre, sur les dernières années, quand même, il s'est un petit peu perdu. Là, tu sens que c'est quand même la fin de l'histoire avec le Real.
Non, non, mais je pense qu'il a fait un mauvais. Enfin, encore qu'il a tellement. Il a quand même gagné deux ou trois Ligues des Champions. En étant sur le terrain, je veux dire, actif, quoi, avec le Real.
Non, mais bien sûr.
Probablement, le foot anglais et son football, c'est fait pour lui. Plus que l'Espagne, même d'un point de vue culturel. Lui, d'être dans son bien-être naturel, il sera plus à l'aise en première ligue. Qu'il n'ait pas tiré profit de tout ce qu'il pouvait faire, ça aussi. T'as raison. Maintenant, gâché, non. Il a quand même gagné. Non, il a fait des gâché, choses. C'est... Il a été.
J'extrapole.
Il aurait pu faire beaucoup mieux. Il aurait pu faire beaucoup mieux.
Mais pour moi,
il aurait pu être plus régulier.
En se fixant au minimum sur le couloir gauche.
Non, mais pas arrière gauche.
On conclut. Tiens, j'ai Arnaud qui me dit sur le hashtag RMC Live, Neymar est en train de préparer son drapeau Brésil, poker, Paris.
Avec Neymar, t'as Brésil, pas poker, mal. Soirée,
ah oui.
Foot volley, jonglage,
anniversaire.
Chose, hein, non, mais on peut imaginer quelques drapeaux sympas.
Mais.
Je sais pas, celui de Benzema, celui de Hazard, je sais pas. Ça peut être un jeu sympa. Allez-y, faites toutes vos propositions sur le hashtag RMC Live. Merci Julien en tout cas.
Merci Gilbert, merci à tous, bonne émission.
Salut, Julien.
Bonne soirée. Tu vois par exemple Dimitri Liénard, il pourrait mettre attends, parce qu'il vient de Belfort lui. Belfort, maçonnerie, Strasbourg. Tu vois. Non, mais il y en a plein, on peut imaginer. Moi, ça me.
Le drapeau de
Zlatan. Et Zlatan, il ferait quoi,
Zlatan? Peut-être qu'il mettrait Strasbourg en premier.
Zlatan, il pourrait mettre Kung Fu. Bah non, ou moi.
Ah non, moi et moi.
Voilà.
Daniel, le drapeau de Daniel.
Le drapeau de Daniel?
Ce serait quoi? After, poker, non. Tennis?
Voilà, très bien. Bravo.
Tu connais bien, Kevin.
Tu as dit quoi? Vas-y.
After, poker, tennis.
C'est ça. Pas tennis en deux.
Ouais.
Ok. Tennis en deux.
Ou alors ça fait 10 ans que je le dis.
Par rapport au.
Par rapport au. Ou alors ma boutique 103.
Par rapport au temps de ma vie que j'y consacre, c'est plus dans cet ordre-là, ouais. After, tennis et poker. Ouais.
Ah non, par rapport au temps que tu consacres, c'est tennis, poker, after.
Ah bah non, t'es fou si tu veux.
Non, mais je joue pas 3 heures tous les jours au tennis quand même.
Voilà, si tu cumules. Ouais,
parce
voilà.
Qu'il est blessé, c'est pour ça.
Non, mais même.
Quand bon, allez, à tout de suite pour parler cette fois de Lyon. Ensuite, il y aura le PSG au programme, bien sûr. La Ligue 1 revient. Et Rennes également avant 22h. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là avec Laure Le Payeur, avec Kevin Diaz, avec Daniel Riolo. Jérôme Rantaine nous rejoint dans quelques minutes. J'ai quelques réactions à vous donner quand même suite à nos débats. Jamel qui nous dit quand même, les gars, Bale, 4 Ligues des Champions, il fait passer le Real dans une autre dimension. Bon, il n'était pas tout seul, hein, mais c'est vrai qu'en Ligue des Champions, il a fait des bons trucs. On ne va pas lui enlever, évidemment. Et puis les propositions de banderoles tombent, hein, bien sûr. Jérôme Rotten, voilà, il y a eu Melon, bon, c'est un peu facile. Et puis j'ai Madjer qui dit, t'as raison, Kevin. Et Gareth Bale aurait dû s'inspirer du grand Bouna Sarr pour avoir une plus belle carrière.
Non, parce que Bouna Sarr, alors je vais éclairer un peu Madjer, hein, s'il me le permet, puisqu'il nous écoute. Mais Bouna Sarr a commencé ailier droit, voire numéro 10 à Metz. Puis il a été reconverti arrière droit. Enfin, milieu offensif.
Il était ailier gauche. Je le voyais attaquant droit, mais on n'est pas.
Si vous me permettez, milieu offensif. Par contre, Gareth Bale s'est révélé en tant qu'arrière gauche. Donc bon, tu me permettras de pas faire le même parallèle.
Très bien. Bon, Lyon, les gars, on y va parce qu'il faut qu'on parle Ligue 1.
Il a marqué les esprits avec une action, mais il s'est révélé
qui, Bouna Sarr
en jouant plus haut. Non, le fameux gardien. Ben.
Bon. Bouna Sarr aussi, rappelez-vous, un centre incroyable au Parc des Princes qui avait donné un but de Metz à l'époque. Bon, c'est pas le même niveau, mais bon.
Ah, je me souviens absolument pas de ça.
Ah, moi, je me souviens très bien. Ah, tout le monde avait dit, oh mon Dieu, c'est qui celui-là, Bouna Sarr? Ah ouais, pas mal.
Juste sur un centre.
Un centre. Il était beau. Hein.
Bale, c'était autre chose quand même. C'était genre une fusée sur le terrain et un grand pont.
Ouais. Incroyable.
Phénoménal.
Contre l'Inter, c'est un des matchs de légende. C'est un match de légende.
Lyon, attention. Alors, vous suivez évidemment le résultat lyonnais. En championnat, c'est la catastrophe. Deuxième moitié de tableau. Colonne de gauche, comme on dit en Belgique.
Rien n'est catastrophique en Ligue 1, Gilbert. Mesure tes mots.
Exactement.
En Ligue 1, c'est pas
très
catastrophique.
Bien.
C'est très bien.
Colonne de droite, pardon, comme on dit en Belgique. Parce que colonne de gauche, c'est les premiers. Colonne de droite, c'est voilà.
Au Hollande, en 10.
Quelle saison désormais pour les Lyonnais? Est-ce que vous sentez venir la saison pour Havre? Ou est-ce que vous vous dites, après tout, attendez, en Ligue des Champions, ils sont encore dans le coup, ils peuvent se qualifier. En Ligue 1, comme le dit Daniel, c'est serré, ils peuvent se relancer. Là, je rappelle que Aouar est blessé pour quelques semaines. Il joue contre Nice ce week-end avant d'aller au Zénith. Messieurs, dames.
La deuxième partie de saison, c'est une spécialité lyonnaise. Donc, moi, j'ai pas envie de jouer.
T'es plutôt confiant.
J'ai pas envie de jouer à Madame Soleil, savoir comment ils vont la gérer, comment ça va se passer. Le présent m'intéresse parce que je pense que Lyon, d'ici Noël, c'est le club français le plus intéressant à suivre. Parce qu'ils ont leurs deux matchs qui, mine de rien, sont quand même assez chauds en Ligue des Champions. C'est pas gagné d'avance, loin de là. Il peut tout arriver, soit une qualification sans trop d'histoire, soit, ce qui pourrait être ultra décevant, mais c'est possible, une élimination. Ça, c'est pour la Coupe d'Europe. En championnat... C'est la remontée au classement qu'on attend parce que forcément à un moment il va falloir remonter parce que tu peux pas sans arrêt dire la deuxième partie de saison elle arrive, Lyon a l'habitude de bien la gérer et tout. À un moment il faut quand même l'amorcer le redressement et donc il va y avoir là cette série de je crois que c'est 9 matchs en 31 jours, un truc dans le genre. Je vois pas d'autres clubs en Ligue 1 plus intéressants à suivre. Le PSG c'est bouclé pour les 8e et c'est bouclé pour champion du tournoi d'ouverture. Non, je parle comme les, comme au Sudam depuis que je suis dans Maradona Mexique.
Ouais.
Donc, le championnat d'ouverture s'est gagné pour le PSG, le huitième c'est fait. L'OM n'a pas de Coupe d'Europe. Donc j'insiste. Lyon est le club qui a, si je suis supporter, c'est le Lyonnais qui a le plus à vibrer d'ici Noël, quoi.
Mais Lyon.
Alors, votre avis, Kevin, alors.
Lyon,
Kevin.
Pour moi, alors juste pour refaire une toute petite parenthèse sur l'histoire de Tottenham, mais. Pour moi, aujourd'hui, ces histoires d'entraîneurs et de vision des clubs, ça cristallise un peu toute la problématique que rencontrent les dirigeants dans le football moderne pour gérer les clubs de très haut niveau. Bon, ça a commencé cet été avec l'histoire de Nantes qui hésitait entre Domenech et Gourcuff. Deux idées complètement différentes. Là, on a un certain Mourinho qui remplace Pochettino. Pareil, aux antipodes de ces dernières années dans ce qu'ils ont proposé dans le travail. Et à Lyon, on est quand même passé, je le rappelle, de Genesio à Silvinho pour revenir à Rudy Garcia. Donc voilà, on est parti à l'Est, on est revenu à l'Ouest et là on est reparti de l'autre côté. Donc je veux dire que c'est pas facile à gérer. Ce club, aujourd'hui, on a choisi la stabilité. On a choisi un entraîneur qui est un peu dans le sérail et qui va peut-être voilà.
La stabilité.
Dire,
on est revenu à des habitudes.
Voilà.
Voilà.
Mais il faudrait aussi qu'il
franco-française.
Il faudrait aussi que tu ailles du côté de Lyon avoir aussi une certaine stabilité dans ton effectif si tu veux progresser.
On est d'accord.
Quand on parle justement d'un tournant du club à suivre sur les prochains matchs. Si on imagine que ça se passe plutôt bien et que Lyon arrive à se qualifier notamment pour les huitièmes de Ligue des Champions.
Bien, moi, c'est aller en huitième et revenir dans la première partie de tableau.
Mais je pense que pour moi, l'effectif, il n'est pas assez large. Je pense qu'il manque quand même certains joueurs dans cette équipe. Maintenant, on reviendra peut-être parce qu'on a parlé
certains
aussi.
Certains joueurs pour faire quoi alors?
Pour venir étouffer cet effectif.
Non, mais attendez. L'effectif de Lyon, il est bon.
Top 3 avec cet effectif, tu dois le faire.
L'effectif de Lyon, il est bon. Ils peuvent faire une deuxième partie de saison comme a fait Monaco.
Moi, je pense que c'est encore un peu juste en Ligue des Champions.
Pour moi, il y a un élément qui est ultra important à Lyon. Vous allez dire que je suis un peu chauvin, mais pour moi, c'est Memphis Depay. Si Memphis Depay.
Bah on l'a annoncé à Tottenham, est-ce qu'il va
arriver à se blesser? Et il reste, il est bon.
Oui,
c'est vraiment un joueur qui va arriver à tirer cette équipe vers le haut.
Lors de la partie, donc j'aimerais qu'elle puisse finir son développement quand même avant de partir.
Non, mais moi, je rejoins un petit peu ce qui a été dit. Je pense que cette équipe, elle est capable de terminer dans les trois premiers parce que pour la Ligue 1, je pense que ça, c'est suffisant. Mais par contre, si elle veut prétendre à plus, moi, j'ai envie que dans cette équipe de Lyon, on essaye de travailler un petit peu plus avec les joueurs en place et que tu viennes au fur et à mesure rajouter des plus-values dans cette équipe parce que je pense que
sur quoi, certains recruter c'est quoi des
recruter à certains postes. Si par exemple on prend un petit peu ce qu'a mis en place ces derniers temps Rudy Garcia avec ce 4-4-2, je pense que tu es encore un peu trop fébrile sur les côtés et que tu as besoin d'avoir
l'effectif il est mal construit, il est bancal.
Effectivement, tu veux dire pour la Ligue des Champions alors?
Ouais, mais pour tout, même
non,
si tu continues dans ce
genre. T'as rien à y jouer, tu vois, en 8e t'es content déjà.
Ligue des Champions, il devrait même se qualifier pour l'Europa League.
Mais je pense que tu peux prétendre aussi à plus si à un moment donné tu te renforces.
Tu vas prétendre à quoi plus que 8e de finale?
Tu peux passer
pour Lyon,
en fonction de l'équipe que tu peux rencontrer.
Non, mais si t'as un tirage qui est pas comme celui de l'année dernière, que t'as un méga bon tirage, pourquoi pas? Mais aller en huitième, c'est l'objectif. Ils iront pas chercher dans leur esprit, ils iront pas chercher plus loin. Ils sont pas construits pour autre chose. Mais sur l'effectif, quand on dit, en Ligue 1, ils peuvent se redresser. On y croit tous. Néanmoins, ça m'empêche pas, ça peut sembler paradoxal, mais c'est une réalité, de penser que de toute façon, que ce soit pour 4-3-3, 4-4-2, les systèmes, l'effectif, il est bancal. Parce que Memphis, Dembélé, Traoré, les joueurs offensifs, c'est pas complémentaire dans leur façon de jouer. C'est pour ça que ni Genesio, ni Silvinho, ni maintenant Garcia n'arriveront à construire une animation offensive efficace. Ça va être l'état d'esprit, la détermination. Il y a comme ça qu'ils vont pouvoir avoir des résultats.
Laure, merci beaucoup.
Merci.
Dans quelques instants, Jérôme Rotten prend ta place. On remplace une blonde par une blonde. On est comme ça dans l'after. Et le 32-16 est ouvert. Supporter lyonnais, on vous attend.
Même si t'es plus la sœur de Manu Petit.
Ah oui, tout à l'heure, il a fait un lapsus quand il s'est un petit peu énervé. Franck, il a dit Manu. Ah, je lui ai dit non.
Ah bon, il t'a dit non, c'est pas vrai.
Si, je te jure, c'est vrai.
Si, là,
on a pris un sourire. Mais en plus, on est normands tous les deux avec Manu, donc c'est marrant.
Mais ça se voit, il y a un lien.
Beaucoup plus joli que Manu, Laure.
Oui, ça.
Attends, mais Manu est convaincu de l'inverse. Dans quelques instants, Jérôme Rotten, donc le PSG au programme, Lyon
c'est
toujours.
Pas les femmes,
et Rennes. Ça. Manu, je sais pas, c'est un peu flou. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, 21h minuit.
L'Afterfoot.
Where would we be without you? The butchers, the bakers, the digital future makers. From BLTs to MOTs, you're the companies that keep us all going. So mind your business, Britain. And so will we. With annual reviews to keep you on our best possible tariff. Because deal or no deal, from Downing Street to the High Street, every business is part of something far, far bigger. Find out how HSBC could help you at business.hsbc.uk/mindyourbusiness. Based on an annual review of activity for businesses with up to a £2 million turnover.